France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Encore et toujours la corne. Le rhinocéros ne réussit plus à vivre sa vie sauvage dans la savane. Les Kalachnikovs prolongent encore et toujours le massacre pour obtenir la corne convoitée. Bien que les mâles soient plus tués que les femelles, l'hécatombe continue, excédant largement les naissances. En Afrique du Sud, presque 10% des rhinocéros sont abattus tous les ans, anéantissant peu à peu les populations. Et tout ça pour quelques grammes de poudre de perlimpinpin. Le parc Kruger, pourtant, conserve les animaux sauvages et offre encore un espace protégé. Il existe une biogéographie des espèces et les bisons d'Europe diffèrent du bison américain. Deux espaces, deux espèces. Chaque milieu exprime des contraintes propres sur la faune et la protection des espèces est devenue indissociable de la protection des espaces. Ainsi a été décidée la formation de parcs naturels, de réserves, d'espaces protégés. En 1870, 2,5 millions de bisons furent abattus dans une seule année. Actuellement, les deux sous-espèces d'Amérique ont totalement disparu, mais le bison américain a été sauvé de justesse. Pourtant, les extinctions sont encore dues à une pratique de la chasse abusive et surtout à un braconnage permanent. Car l'argent continue de peser sur la vie des animaux sauvages. La probabilité de survie des espèces dépend de la qualité des milieux. Alors, cette érosion de la diversité reste silencieuse parce qu'elle est peu perceptible par nos contemporains et parce qu'elle touche tellement d'espèces sauvages en même temps. La diversité est cependant le résultat de l'histoire de la planète, et les formes de vie actuelles sont l'héritage de ce qui s'est passé dans l'histoire du vivant depuis les tout débuts. Seulement, un espace doit aussi affronter la sécheresse, l'altération des milieux, surtout lorsque les éléphants l'occupent et que les hippopotames s'y rassemblent. Alors, sur quelle base peut-on protéger un espace, une espèce? Pour quels objectifs? Quels sont les résultats de la conservation de la faune? En fait, les enjeux dépassent largement les espaces protégés. Le parc Kruger est l'un des plus grands parcs d'Afrique, avec une surface supérieure à 20 000 km², c'est-à-dire plus de deux fois la Corse. C'est aussi l'un des plus anciens, puisqu'il a été créé en 1926, et l'un des plus visités du monde. Le parc abrite plus de 150 espèces de mammifères et 500 espèces d'oiseaux. Mais le monde est en crise. Et le parc répond-il aux besoins de protection des espèces ? Que reste-t-il des léopards, des rhinocéros, des éléphants? Face à la pauvreté du monde, face à l'expansion des exploitations du capitalisme, comment faire pour qu'une place soit laissée libre à la faune sauvage? La nature doit-elle rester sous une cloche? Le lion semble bien seul dans sa savane et le rhinocéros sera-t-il caché encore longtemps ses nouveau-nés? Et si le parc Kruger permettait déjà un diagnostic sur l'état du fonctionnement de notre si petite planète ? Espace, espèce, nous allons disserter de la conservation des milieux et de la faune face au paradigme grandissant du capitalisme.
Vous écoutiez sur Radio Libertaire la chorale de l'Université de Cape Town en Afrique du Sud qui interprétait Shosholoza, qui signifie en NBD aller de l'avant, qui évoque le courage. D'ailleurs, les migrants zimbabwéens la chantaient dans le train à vapeur qui les menait à travailler dans les mines d'or et de diamants d'Afrique du Sud dès la fin du 19e siècle. Plus tard, les travailleurs zoulous reprirent ce chant pour donner du rythme à leur travail et se donner de l'ardeur à la tâche. D'ailleurs, Nelson Mandela racontait qu'il la chantait alors qu'il était contraint aux travaux forcés dans sa prison de Robben Island. Aujourd'hui, Shosholoza est devenu un hymne chanté dans beaucoup d'événements sportifs et qui a une résonance comme un chant d'encouragement et de motivation. Et bien sûr, un lien d'union en Afrique du Sud.
Et oui, nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'écologie et aux parcs nationaux, à la conservation de la nature et plus particulièrement au parc Kruger, puisque nous avons pu nous renseigner et interviewer des gens du parc Kruger. Alors, nous allons donc poser cette question particulière. Les parcs servent-ils vraiment à protéger la faune ? Dis-nous, Siona, vers quel moment l'idée des parcs est-elle apparue ?
En fait, il faut remonter en 1832. L'idée de protéger un espace par la création d'un parc apparaît aux USA à cette époque. C'est en fait au peintre George Catlin, spécialisé sur les Indiens, que l'on doit cette idée. Il propose une politique de protection afin que les merveilles naturelles soient présentées à l'époque. Bon, en anglais, ça donne « By some great protecting policy of government, in a magnificent park, a nation's parks containing man and beast, in all the wild and freshness and their nature's beauty. » Bon, revenons en français. En gros, c'est-à-dire un parc contenant hommes et bêtes dans toute la beauté sauvage de leur nature. La première réserve naît aux USA, où Abraham Lincoln, le 30 juin 1864, déclare terrain public inaliénable la vallée de Yosemite en Californie. Toutefois, c'est Yellowstone qui doit être considéré comme le premier parc national au monde, créé par la loi du 1er mars 1872. Le deuxième fut le parc national royal australien en avril 1879, le troisième parc national de Barnes au Canada en 1885 et le quatrième, celui de Tongariro en Nouvelle-Zélande en 1887. Les premiers parcs nationaux européens apparaissent en Suède en 1909 avec les parcs nationaux d'Angsko et d'Abisko.
Alors, il y a eu aussi quelques petites réserves en France qui ont été créées dès les années 1880 à peu près. Mais bon, quelle superficie représentent ces parcs à peu près ?
En gros, la superficie des parcs nationaux varie entre 550 hectares pour le parc national des îles en Côte d'Ivoire et plus de 9,5 millions d'hectares en Égypte, aussi grand que l'Égypte, pour le parc national du nord-est du Groenland, au Groenland, fondé en 1974. Le parc amazonien en Guyane figure parmi les 30 plus grands parcs nationaux au monde, avec un territoire de 39 900 km². Sur Terre, il existe plus de 200 000 aires protégées, couvrant plus de 32 millions de km² sur un ensemble de 195 pays. Pourtant, elle représente seulement 13% des espaces terrestres et eaux intérieures et moins de 2% des espaces marins et côtiers. Parmi elles, plus de 6500 parcs nationaux. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, estime le nombre de parcs nationaux à plus de 6500, couvrant une superficie supérieure à 4,4 millions de km² dans une centaine de pays, soit un peu plus que la superficie de l'Union européenne. L'Australie, à elle seule, en compte plus de 500, l'Europe plus de 300.
Oui, alors en fait 4,4 millions de km², ça représente quand même à peine 1%, à peine 1% de la surface de la planète, de la surface totale. Donc c'est quand même très très peu. Mais on va revenir sur l'Afrique du Sud. Et donc en Afrique du Sud, combien y a-t-il de parcs ?
En Afrique du Sud, les parcs sont au nombre de 19 et représentent une superficie totale de 40 802 km², soit environ 3,3% de la surface du pays.
3% de la surface du pays,
oui,
pour l'Afrique du Sud.
Tout à fait. Ils sont administrés par SANParks, South African National Parks, organisme créé en 1926. C'est aussi à cette date qu'est créé le plus ancien, le plus grand en termes de superficie et possédant la plus grande notoriété. C'est le parc Kruger.
Ah oui, alors le parc national Kruger, c'est en fait l'une des plus grandes réserves d'animaux de l'ensemble. Et je crois que c'est la plus grande d'Afrique du Sud et la troisième d'Afrique.
Tout à fait, Thierry. Il s'étend sur près de 20 000 km². Il est long de 350 km du nord au sud et large de 60 km d'est en ouest. Soit une taille comparable à celle d'Israël ou celle des pays de Galles. Le parc porte le nom de Paul Kruger, qui a vécu de 1825 à 1904. Il s'agit d'un homme d'État boer et président de la République sud-africaine du Transvaal. Le parc Kruger se situe dans le nord-est du pays, l'est de l'ancien Transvaal, actuel Mpumalanga et Limpopo. Au nord, il est bordé par le Zimbabwe et l'est par le Mozambique. Le parc Kruger est aujourd'hui regroupé avec le parc national Konarezenzu au Zimbabwe et avec le parc national Limpopo au Mozambique, dans le grand parc transfrontalier du Limpopo. Il est également reconnu en tant que réserve de biosphère par l'UNESCO en 2001.
Oui, ce qui en fait quand même un parc relativement immense et relativement ouvert sur les espaces extérieurs, ce qui permet à la faune de pouvoir y passer fréquemment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est l'histoire de cette création ?
Alors en fait, en 1896... sous l'impulsion de Paul Kruger, le président, le Parlement de Transvaal approuva le principe d'une petite réserve animale près de la rivière Sabie. En 1898, la Sabie Game Reserve est créée. Quelques dates, hein, je poursuis. En 1902, après la Seconde Guerre des Boers, le major James Stevenson Hamilton fut nommé comme premier gardien de la réserve. Quelques mois plus tard, la réserve s'agrandissait avec l'ajout de zones comprises entre la rivière Sabie et la rivière Oliphant. Durant cette période, Stevenson Hamilton fit expulser des zones protégées toutes les tribus qui y vivaient et permit l'essor à côté, bien sûr, de la faune qui avait été décimée par les chasses ou les épidémies. Parallèlement, il fit chasser les prédateurs pour réintroduire les antilopes. Il y a bien sûr une ambiguïté, les choses n'étaient pas simples. En 1912, une ligne de chemin de fer traversa la réserve y emmenant les premiers touristes.
Alors là, c'est le début de l'aspect touristique de ces grands parcs.
En 1926, toutes les réserves sont regroupées dans le premier parc national d'Afrique du Sud, qui reçoit le nom de Paul Kruger, officiellement à l'origine de toute la première d'entre elles. Et c'est à cette date que le parc Kruger est ouvert au public. En 1935, plus de 26 000 personnes visitent le parc, autour d'un million dans les années 2000. Vous voyez l'évolution. Les lions étant la principale attraction du parc, Stephen Hamilton fit interdire la chasse aux prédateurs. En 1946, le lieutenant-colonel Simpson Hamilton prend sa retraite et meurt en 1957. Et dans les années 60, des étangs artificiels ont été créés pour la faune. À ce moment-là, déjà, on parle de sécheresse. En 1991, Robbie Robinson devint le nouveau chef exécutif du South African National Parks Board et eut la charge d'assurer la transition du parc dans la nouvelle Afrique du Sud, débarrassée de l'apartheid. Il fit abattre les clôtures qui délimitaient le parc des réserves privées qui le jouxtent, permettant la libre circulation de la faune.
Alors là, c'est important parce que c'est un moment où le parc Kruger va vraiment commencer à apparaître sous sa forme actuelle, sous sa forme originale. Mais il n'y a pas que le parc Kruger comme espace protégé.
Oui, il faut noter qu'au milieu des années 90, plusieurs réserves de moyenne et grande taille formant l'APNR, c'est-à-dire l'Association of Private Nature Reserves, ont été intégrés au territoire du parc Kruger, formant ce qu'on appelle le Greater Kruger. L'ANPR, c'est près de 200 000 hectares directement situés en bordure, donc 20 000 km² pour Kruger. Toutes les clôtures entre l'APNR et le Kruger ont été enlevées. Les animaux circulent donc en totale liberté. À l'époque, il s'agissait d'un véritable challenge. En effet, avant d'intégrer le parc Kruger, les différents propriétaires terriens ont dû se mettre d'accord. Certains possédaient 3000 hectares sur lesquels ils organisaient des chasses, d'autres avaient un bout de terre bordant la Holland River où ils avaient une retraite tranquille et certains, plus ermites, vivaient au milieu du bush sans électricité et confort. Chaque réserve fut donc soumise à la réglementation du parc Kruger, visant notamment à protéger les animaux.
Oui, on a réduit en partie aussi tout ce qui pouvait être construction, développement immobilier.
Tout à fait. Pas de développement immobilier sauvage. Des règles strictes sont appliquées en fonction de la taille du terrain. Tout le monde n'a pas le droit d'ouvrir un lodge, un complexe pour abriter, pour accueillir les touristes.
Un complexe hôtelier, quoi.
Voilà, tout à fait. Et c'est seulement en fonction de la taille de la terre qu'un nombre de lits est accordé. Par exemple, un terrain de 50 hectares ouvre droit, on ne peut commercialiser que 12 lits. En 1998, David Mambuda devient le premier directeur noir du parc national Kruger et est toujours le chef exécutif du South African National Park Board. En 2003, des membres du South African National Park Board n'hésitent pas à déclarer publiquement leur souhait de rebaptiser le parc du nom de Nelson Mandela. Certains disent qu'à brève échéance, ce serait le nouveau nom du parc. La même année, le comité administratif du South African National Park demande que la statue de Paul Kruger, qui jouxte le parc, soit dédoublonnée, tout comme les bustes de Kruger de Stephen Hamilton situés à l'intérieur du parc au camp de Skugnsa. La décision est ajournée à la suite du tollé provoqué dans la population africaine. Les choses ne sont bien sûr pas simples. Dans
Mais oui, puisqu'en fait, c'était quand même les fondateurs de la nation Boer à l'époque, et évidemment, ça pose un véritable problème. Mais on comprend le besoin de modifier un peu ce passé, et qui quand même a un certain passif. Alors, comment est-ce qu'il est structuré, ce parc Kruger ?
Alors, en fait, Sandparks est l'organisme qui gère les parcs nationaux, notamment la gestion de toutes les infrastructures routières, l'hôtellerie, la protection de la faune, la gestion des touristes, les études scientifiques. Tout est fait pour mettre en valeur, donc, et pérenniser ces fameux parcs. Le parc Kruger possède 21 camps, 7 lodges privées sous forme de concessions et 11 autres lodges privées. Les lodges sont en fait des logements en dur. L'entrée du parc est réglementée. Oui, on ne passe pas comme ça. Il existe des portes d'entrée. Les gardes y délivrent un permis qu'il faut garder et remettre à chaque fois que vous changez de camp ou quand vous quittez le parc. Dans le parc, il y a une réglementation à suivre. La vitesse est donc limitée à 50 km/h sur route goudronnée et 40 sur piste. Seuls les véhicules fermés sont autorisés. Les heures d'ouverture sont de 5h30 à 17h30 ou 18h30 selon la saison. Il est interdit de descendre de son véhicule, sauf les lieux autorisés, de se tenir debout à travers le toit ouvrant. Pas de conduite hors piste. Les visiteurs logeant dans le parc doivent se présenter à la réception des camps avant de s'installer. Il ne faut pas cueillir de plantes et nourrir les animaux.
Alors évidemment, toutes ces interdictions ont un rôle important, mais quelles sont ces raisons ?
Bien évidemment, essayer de ne pas trop perturber la faune. Cela vise notamment à protéger les animaux. La chasse y est formellement interdite. Mais pas seulement. En fait, en gros, le maître mot est la conservation. Et aussi, bien sûr, de ne pas risquer des accidents avec un lion, un singe ou un éléphant, par exemple. C'est vraiment très impressionnant de voir passer un éléphant tranquillement à 10 mètres derrière la Jeep. Nous étions d'ailleurs tous silencieux, juste à quelques déclenchements d'appareils photo, à la fois impressionnés par la force de cet animal et le petit frisson de se dire « s'il n'est pas content de notre présence, il peut devenir violent ».
C'était Moonspell, Night Eternal. Nous revoilà donc ici pour parler du parc Kruger. Alors revenons. Un parc naturel, c'est un espace sauvage protégé des agressions extérieures et dont l'objectif est de rassembler une faune. Le but affiché de la conservation d'une biodiversité importante en termes de diversité des espèces et en termes de diversité des interactions entre les espèces. Alors justement, quelles sont donc les principales espèces qui sont présentes dans le parc Kruger?
En fait, le parc Kruger présente une très grande diversité d'espèces. Plus de 517 espèces d'oiseaux ont été recensées, dont 253 sont endémiques au parc. On peut citer notamment autruche, pintade, francolin, canard, cigogne, héron, rapace, pigeon, perroquet, martin-pêcheur, guépier, rôlier, pique, drongo, tisserin, alouette, merle, métallico. C'est un animal d'ailleurs très surprenant qui est bleu avec des yeux oranges. Il est vraiment superbe. Quand on était arrêté, je me souviens, pour manger, il y en avait plein qui se rapprochaient. C'était très sympa comme espèce. Et parmi les autres espèces remarquables, on peut signaler le jabiru du Sénégal, l'outarde de Corrie, l'aigle martial, l'aigle facier, l'aigle ravisseur, le pigargue vocifère, le cirquette à poitrine noire, le cirquette brun, le vautour, le bateleur des savanes, la chouette pêcheuse, le calao terrestre, vous savez, avec un grand bec.
Mais bien sûr, en face de tous ces oiseaux, les animaux les plus célèbres restent bien entendu les grands mammifères africains.
Effectivement. Et les cinq grands animaux regroupés sous le fameux vocable Big Five, lion, éléphant, léopard, rhinocéros et buffle, se trouvent en forte présence au Kruger. Ce sont les animaux qui étaient les plus recherchés par les chasseurs, en fait, et finalement maintenant, aujourd'hui, par les touristes et naturalistes.
Qui sont d'autres formes de chasseurs.
Tout à fait, à l'affût. Ils représentent les grands animaux africains les plus célèbres. Et d'ailleurs, ils figurent même sur les billets de banque de l'Afrique du Sud les plus courants. On avait 100... chaque animal était représenté sur un billet.
Alors les Big Five, les cinq grands, sont donc devenus les représentants de la faune africaine, c'est-à-dire ceux qui vont mettre en évidence l'état du parc, l'état du milieu. On y a ajouté bien sûr d'autres espèces, les Ugly Five, ce sont des animaux tout aussi connus mais beaucoup moins spectaculaires.
Effectivement, là aussi on peut figurer parmi les cinq autres espèces, on les nomme les Ugly Five, les phacochères, la hyène, le marabout, le crocodile et le vautour africain, parce qu'ils sont considérés comme
moins beaux.
Actuellement, on dénombre au parc Kruger 147 espèces de mammifères en 2004, dont à peu près 1500 lions, 1000 léopards, 200 guépards, 350 licaons, 2000 hyènes, 11670 éléphants d'Afrique, 5000 rhinocéros blancs, 350 rhinocéros noirs, 32000 zèbres, 3000 hippopotames, 3800 phacochères, 9000 girafes, 25000 buffles d'Afrique, 300 élans, 550 hippotragues noirs, 5000 grands coudous, 150000 impalas. Le recensement de 2012, donné par Kruger, fait apparaître une évolution de toujours donc 147 espèces, 116 reptiles, 505 oiseaux, 49 poissons, 34 amphibiens et 1980 espèces de végétaux en tout. On relève une baisse notamment des effectifs de guépards de 120 et de licaons de 120 aussi. Et une stabilisation ou un accroissement d'autres espèces comme les lions, les hyènes, les éléphants, les hippopotames, les bluffes et les élans. À noter que le Kruger propose une application smartphone pour noter la présence d'espèces rencontrées lorsqu'on est dans le parc. C'est une forme d'écotourisme actif.
Oui, ça permet aussi aux différents conducteurs de vous envoyer dans les endroits où il y a le plus d'animaux qui ont été vus récemment.
Exactement, c'est amusant d'ailleurs. On se suivait avec différents jeeps et on avait un guide qui aussi prévenait un autre guide aussi par téléphone pour dire « là, il y a des rhinocéros, là, il y a telle chose » pour bien sûr qu'on puisse...
Et puis évidemment, ça permet également un suivi de la faune.
Ah, tout à
Alors,
fait.
Quelles sont les espèces que tu as pu voir, toi, pendant ta visite du parc, s'il y en a?
Alors, en fait, on a vu principalement, directement, des rhinocéros, des éléphants, des zèbres, des impalas, des lions à la sieste, une hyène dans une sorte de fossé qui a levé la tête, puis s'est recouchée. Ça m'a marqué ce moment-là qui était très intime. Différents oiseaux, comme le calao. Pour les amoureux de la faune, c'est quand même une expérience unique.
Alors évidemment, il n'y a pas que ce que tu peux voir toi, il y a aussi les rapports scientifiques. Il y a donc un rapport scientifique qui est sorti assez récemment et qui récapitule un petit peu l'état de la faune africaine.
La 4e édition des perspectives mondiales de la diversité biologique qui donne une évaluation du plan stratégique pour la diversité 2011-2020, a fourni un examen des progrès accomplis à l'échelle mondiale en vue d'atteindre différents buts pour un plan stratégique sur la diversité biologique et les objectifs d'Aichi qui y sont associés. Il s'agit de la deuxième édition de l'état de la biodiversité en Afrique. Ce rapport constitue une évaluation à mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan pour la diversité biologique pour la région Afrique. Il a été élaboré à partir d'un ensemble d'indicateurs régionaux d'informations émanant des cinquièmes rapports nationaux présentés par les parties de la Convention à la diversité biologique et d'autres rapports gouvernementaux, diverses publications, afin de fournir un examen objectif par objectif des progrès accomplis pour la réalisation des 20 objectifs d'Aichi pour la biodiversité. En fait, il en ressort les points clés suivants. Dans l'ensemble, la biodiversité en Afrique continue à décliner avec des pertes constantes d'espèces et d'habitats.
Alors ça, c'est évidemment une conclusion assez grave.
Tout à fait. La perte continue de la biodiversité en Afrique est, en fait, cette perte est entraînée par une combinaison de facteurs anthropiques. Les écosystèmes d'eau douce de l'Afrique et leur biodiversité sont particulièrement menacés.
Ils sont d'ailleurs parmi les plus fragiles des écosystèmes, hein, puisque évidemment, dans ce coin, on va connaître beaucoup plus de sécheresse.
Tout à fait. On a entendu la dernière du Cap, qui d'ailleurs pose des gros problèmes d'approvisionnement d'eau pour les habitants, avec une très forte restriction cette année. L'Afrique continue à connaître la déforestation et la dégradation des forêts. Les impacts négatifs du changement climatique sur les espèces et les écosystèmes aggravent les effets de ces pressions. Néanmoins, le rapport identifie un certain nombre d'interventions importantes qui ont eu lieu depuis 2010. Les pays africains travaillent de manière collaborative afin de traiter certains objectifs d'Aichi pour la biodiversité. Il existe un portefeuille croissant d'aides internationales pour aider les pays africains à atteindre ces objectifs. Les pays africains recours à l'évaluation des services rendus par les écosystèmes et à l'investissement du RED afin toujours d'atteindre ces objectifs. De nombreux pays africains ont déjà atteint leurs objectifs de 17% d'air terrestre protégé et beaucoup d'autres travaillent à la réalisation de cet objectif et de celui qui vise à atteindre 10% d'air marine protégé. L'Afrique recourt de plus en plus à la conservation sur les écosystèmes et à la restauration de ressources naturelles.
Alors en effet, l'état de la faune africaine est quand même toujours problématique puisque en 2014, on considérait qu'un total de 6419 animaux et 3148 plantes étaient listés parmi les espèces menacées en Afrique, menacées d'extinction et sur la liste rouge de l'UICN. 21% de la totalité des espèces d'eau douce en Afrique sont listées comme menacées et 45% des poissons d'eau douce, 58% des plantes d'eau douce sont surexploitées. Alors cet indice liste rouge de l'UICN pour les eaux douces africains montre également un déclin au cours des 25 dernières années, ce qui signifie que les oiseaux africains sont de plus en plus menacés d'extinction selon le BirdLife International de 2015. Les tendances pour d'autres groupes sont également tout à fait négatives, hein, c'est ce que disait déjà l'UICN en 2014, et globalement il est estimé que la population des espèces de vertébrés africains sur lesquelles les données sont disponibles a diminué de près de 39% depuis 1970, ça c'est encore les données du WWF. Ces baisses sont plus rapides en Afrique occidentale et centrale que dans l'Est de l'Afrique, ou qu'en Afrique australe, heureusement. Les tendances démographiques parmi les espèces les plus petites sont en général inconnues, hein, on ne sait pas du tout vers quoi tout ça va, et il y a de nombreux habitats qui sont soumis à une pression de plus en plus importante, principalement à cause d'une exploitation des ressources, à un développement et une croissance démographique qui sont très mal contrôlées, pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest notamment. Les mangroves, les forêts humides, les forêts sèches, et les zones humides saisonnières ont toutes diminué de façon très significative au cours des 20 dernières années. Alors ce sont des baisses qui oscillent autour d'1% de pertes par an, donc ça nous fait 20% en 20 ans. Une analyse des écorégions africaines qui a été menée en 2004 a démontré qu'il y avait beaucoup d'habitats qui étaient considérés comme en danger ou même en danger critique, bien qu'il n'y avait pas eu d'analyse plus récente qui ont été faites au niveau à l'échelle du continent. Alors il est peu probable que ce statut se soit amélioré depuis, bien qu'évidemment ces facteurs sont freinés en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. centrale, liée notamment à cette politique de conservation qui est achevée actuellement.
Vous écoutiez Solomon, Linda et The Evening. C'était la première version d'Umbebe en 1939. Ce chanteur, un musicien, compositeur zoulou sud-africain, a en fait écrit Umbebe, qui veut dire lion en zoulou, qui devient plus tard un morceau populaire célèbre, The Lion Sleeps Tonight, ou tout simplement pour les auditeurs, Le lion est mort ce soir. Célèbre composition. Mais Linda n'a rien reçu de ces royalties, voilà, parce qu'en fait, les Blancs ont récupéré tout cela.
Eh oui, c'était l'apartheid en Afrique du Sud.
Tout à fait.
Nous voilà de retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, pour bousculer notre tête avec science en liberté. Et aujourd'hui, nous parlons des espaces naturels et des espèces. Alors, espèces rares, menaces parmi les espèces, on vient déjà de pas mal en parler. Que peut-on en dire davantage ?
En fait, dans cette partie, nous allons parler de la situation de certaines espèces et des menaces qui pèsent. Prenons par exemple le lion, Thierry.
Alors, le cas du lion. L'Union internationale pour la conservation de la nature publie son rapport sur le lion et fait un constat très, très alarmant de la situation des lions africains. La plupart des espèces et des sous-espèces restent classées comme vulnérables. Et à la vue des résultats, c'est même très proche d'être classé en catégorie en danger, voire même dans nombreuses régions du continent africain, en danger d'extinction. En revanche, en Afrique du Sud, qui représente à elle seule près d'un tiers de toute la population restante des lions, le nombre paraît stable, en particulier dans le parc national Kruger, qui est sans doute arrivé maintenant à son potentiel optimal. On ne pourra pas le voir augmenter, le lion. Le rapport sur l'évolution de la population de lions va être effectué sur 45 zones importantes pour l'espèce et dont les populations ont été surveillées entre 1993 et 2014. Alors ça ne comprend pas toutes les populations de lions, mais ça donne une vue d'ensemble de l'évolution. Alors, on a utilisé différentes études de terrain et on a constaté, c'est l'UICN qui constate cela, une baisse de 43% de la population de Lyon durant cette période sur l'ensemble de la zone étudiée. Alors, il faut bien comprendre que la faune connaît actuellement une baisse constante sur beaucoup, beaucoup d'endroits. C'est actuellement le cas en Afrique sur les grands mammifères. Mais cette baisse n'est pas aussi prononcée que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, à Nigeria, Cameroun, Bénin, où là, les populations souffrent énormément avec les changements climatiques et l'augmentation de la population. Et on connaît une baisse des populations de lions de 66% en une dizaine d'années. En Afrique de l'Est, la situation n'est pas meilleure, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec une baisse de près de 60%, en particulier en Ouganda et en Tanzanie, alors qu'en Afrique centrale, en Afrique australe, pardon, le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, on a plutôt une population qui a tendu à augmenter. Et puis évidemment, il faut aussi rappeler que le lion est quand même éteint maintenant dans 12 pays africains et qu'il a très probablement disparu de 4 autres. Enfin, c'est beaucoup plus parlant si on parle des chiffres. Hein. Il reste 450 lions dans les principales zones de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il en reste 1350 en Afrique de l'Est et enfin 5250 en Afrique australe. Ce qui nous fait un total d'environ 7 millions avec une situation très contrastée. 7 millions en 2014 contre 9500 en 1993. Il y a donc une chute assez importante.
En fait, la situation est plus contrastée que ces chiffres ne le laissent penser. Dans un pays, d'un parc à l'autre, les résultats peuvent être très différents.
Oui, il faut se rappeler quand même qu'on comptait 450 000 lions en Afrique dans les années 40. Donc on voit quand même que leur nombre a terriblement régressé, avec un nombre qui dépasse à peine les 18 000 individus, et encore c'est une estimation optimiste.
Et oui, et quand on pense à côté que l'espèce humaine a 7,5 milliards sur la planète, dont 1,256 milliard en Afrique. Bon, autrement, on relève que les trois espèces emblématiques de la savane africaine, le guépard, la girafe et le rhinocéros noir, sont menacées de disparition par la fragmentation de leur habitat et aussi par les activités humaines.
Oui, d'après une étude qui a été publiée dans la revue PNAS, hein, les Proceedings de société américaine, en décembre 2016, les populations de guépards sauvages en Afrique, soit la majorité des guépards du monde, a été estimée à 7000 individus sur un territoire qui ne représente plus que 9% de leur aire d'occupation historique. Ça veut dire que 91% de leur aire d'occupation est maintenant désertée. Alors cette espèce a pourtant besoin d'un grand territoire pour survivre, et évidemment il subit la concurrence des autres espèces de prédateurs. Moins d'un quart des guépards qui vivent dans des zones protégées. La majorité de l'espèce est donc exposée à des menaces multiples, hein, de chasse, de braconnage, de destruction d'habitat. Alors les guépards sont inscrits sur la liste UICN comme une espèce vulnérable, mais en fait c'est principalement une espèce quasiment menacée. Quand la sous-espèce africaine est-elle en situation menacée, il faut se rappeler aussi que la sous-espèce asiatique est en situation terriblement critique.
À côté de Kruger, il existe un centre de réhabilitation du guépard nommé Oudtshoot Park, que j'ai eu l'occasion de visiter et qui est en lien, ce parc est en lien avec le parc Kruger, bien évidemment. En fait, c'est un parc avec de grands enclos qui fait à la fois de la reproduction et de la sauvegarde du guépard, avec quelques autres espèces de présentes, mais l'espèce phare, bien sûr, est le guépard. Je vous propose d'écouter le guide qui présente les caractéristiques. C'est un extrait de la fourrure du jeune guépard qui lui permet de mieux se cacher.
At these cheetahs, make sure that they are healthy, to make sure that they get their vaccinations and things like that. So keep a close eye on them. At the top, they have that grayish fur. So when a cheetah cub is born, they have that grey and black fur on them. So they do not look like cheetahs at all when they are born. So this is a survival strategy of your cheetah cubs, so that predators do not mess with them. So they actually look like a honey badger when they are born, and all animals in the wild fear a honey badger.
Donc, c'est une expérience intéressante parce qu'on est en jeep et tout simplement on voit quand même les espèces aussi là assez proches, et notamment le guépard qui n'est pas facile à voir, bien évidemment. Donc pour les trois espèces qui ont des grosses menaces, on a donc le guépard, la girafe, le rhinocéros, qui risquent de disparaître.
Et donc ces centres de soins permettent de soigner et de libérer les jeunes guépards, hein, comme on l'a entendu. Mais quelles sont les principales menaces qui pèsent sur le parc Kruger ?
Le problème le plus important qui pèse sur Kruger, c'est le braconnage. Comme vous allez pouvoir l'écouter avec l'entretien de M. Hopperman, guide à Kruger. Et c'est vraiment le principal problème.
So you are Fazan Hopperman, tourist guide in Kruger Park.
Yes, ma'am.
And I would like to know where are the what are the threats to Kruger Park? Threats, problem for Kruger Park.
I think the biggest threat for the Kruger National Park.
Yes.
Is poaching.
Poaching.
Yes,
yes,
ma'am. Because of people that would like to benefit.
Yeah.
Out of the of this park.
Yes.
By being selfish and try to break rules and come and steal or kill for their own benefit.
Yes. Not hunting?
Well, hunting is not allowed into the Kruger National Park.
Yes. Okay, but is there some hunters who could pass through? No, there is no.
Well, there are security systems and procedures in place, which include also guarding and protection of the wild.
Hey.
And there's always people who would like to find ways of overstepping those interests.
Okay.
En fait, il soulève, comme vous avez pu l'entendre, le problème du braconnage, tout en disant, bien évidemment, que la chasse est interdite, mais et il y a beaucoup de contrôle et de surveillance du parc qui le surveille sans arrêt.
Okay, and dryness, is it a problem that there is no water?
Again, that the specialists and the people working with that, they will determine if it's a problem or not, and they will make the necessary pre-arrangements to cater for any possibility to make sure that there's enough water.
Okay, but there is, you build some water pieces?
Reserves reservoirs, or maybe sinking boreholes, or make sure that there's sufficient water supply.
Okay.
And those people are also there to make this daily, weekly, monthly, to make sure that there's adequate enough.
D'accord. And the last question is, there are no connection within reserves, between reserves and Kruger Park, because the animals could not move between each place, each reserve and Kruger Park?
Now, I think the Kruger National Park is set up properly with its boundaries.
Okay.
And the boundaries has been demarcated very well. And those things are inspected daily and make sure that that's been in place. So there's not migration taking place away from the Kruger National Park. And the arrangement with the other places surrounding the Kruger National Park.
Pour lui, il n'y a pas d'espèce phare en tant que telle, mais chaque espèce est importante et est suivie scientifiquement. Et la pression touristique est aussi contrôlée, dans la mesure où il y a un équilibre à l'entrée de chaque partie de parc. Ils savent exactement combien de personnes, à quel moment il y a le nombre de touristes dans le parc. Par ailleurs, il y a bien sûr des spécialistes au sein du parc, comme il le soulève, qui suivent l'évolution de l'eau et des problèmes de sécheresse, d'où aussi le suivi de la construction des mares, qui permettent une permanence et une disponibilité de l'eau.
Oui, pour la faune, car la sécheresse a quand même été contrée par ces dispositifs. Ça a permis de diminuer le risque de disparition de certaines espèces en leur donnant de l'eau disponible. Ça a permis la conservation notamment des grands animaux.
En fait, Kruger, c'est l'habitat de la plus grande population de rhinocéros d'Afrique, près de 9400. Mais chaque année, environ 600 d'entre eux ont été abattus depuis la reprise du braconnage en 2010, au point que le nombre de décès excède le nombre de naissances. de janvier à septembre 2016, 458 carcasses de rhinocéros braconnés ont été trouvées, soit une baisse de 17% par rapport à l'année précédente.
Et c'est des chiffres très importants, surtout quand on sait que tout ça, c'est uniquement pour satisfaire la taille du zizi des Asiatiques qui considèrent évidemment que cette poudre de perlimpinpin pourrait leur faire grossir la chose.
C'est
et
terrible.
Puis, il y a évidemment, de manière beaucoup plus concrète aussi, les problèmes de la sécheresse qui sévit de manière particulièrement drastique, notamment en Afrique australe.
Dans le parc, les mares et les cours d'eau ont été à sec, bien que, comme l'a soulevé le guide, les chercheurs au parc suivent l'évolution des points d'eau. Mais lors de la grande sécheresse, l'herbe a manqué pour les animaux brouteurs. Les points d'eau restaient étant surpeuplés d'hippopotames et quelques cadavres d'animaux morts de soif ou de faim ont été retrouvés dans la partie centrale de la réserve. Pour limiter la pénurie, Sandparks a dû mener un plan d'abattage d'environ 300 buffles et d'une centaine d'hippopotames. C'est des chiffres officieux. La viande a été distribuée dans les communautés environnantes. Elle a aussi été impactée par la sécheresse.
Oui, c'est vrai que ce problème de réduire les populations, c'est toujours quelque chose de difficile à comprendre. Et puis, le parc Kruger possède aussi une bonne population d'éléphants.
Et oui, 19 000 éléphants, une population en constante augmentation depuis 15 ans, ce qui est très bien. Mais du coup, cela a pour conséquence un risque de surpopulation qui entraîne des dégâts sur la végétation dans plusieurs secteurs du parc.
Oui, qui évidemment aggrave encore la situation de la sécheresse. Et puis, il y a aussi la grosse fréquentation touristique.
Plus d'un million de visiteurs du monde entier viennent s'émerveiller devant ces paysages, sa faune, sa flore. Mais en fait, ça permet à contrepartie finalement d'avoir une présence humaine qui fait que les braconnages peuvent aussi être moins présents. Donc le guide aussi soulevait qu'il y avait une surveillance importante du nombre des effectifs. Donc c'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas simple.
Oui, les écotouristes, finalement, ça participe quelque part de la surveillance de la faune et ça peut permettre de diminuer la pression de chasse. Mais enfin, évidemment, les braconniers vont se reporter à d'autres moments du jour ou de la nuit.
Do the same.
C'était Solitude par Geoffrey Oriama.
Alors nous avons donc vu que le parc Kruger réussissait malgré tout à se défendre contre toutes les agressions que peut subir la faune sauvage, et il met différents moyens pour gérer l'espace et la faune qu'il abrite. Bon, il s'agit notamment donc de lutter contre le braconnage, à certaines périodes de lutter contre la sécheresse, et puis il y a toujours le problème de la surpopulation de certaines espèces, et puis bien sûr la pression du tourisme qui malgré tout n'aide pas forcément le devenir de la faune.
Sur leur site internet, ils évoquent en particulier aussi la gestion des incendies, l'approvisionnement en eau, la lutte contre l'érosion et bien sûr les dommages causés aux animaux, braconnage, et les mesures de suivi des espèces menacées. À noter que depuis 1989, le parc n'abat plus les éléphants en surnombre, mais en fait, il tente de procéder à des délocalisations vers d'autres parcs.
C'est-à-dire qu'il emmène les éléphants en fait d'un parc à un autre.
Tout à fait. En 2004, la population d'éléphants a atteint cependant 11 670 individus, alors que le parc Kruger n'est prévu que pour un maximum de 8 000 éléphants. La contraception animale est donc utilisée depuis 1995. Le parc national Kruger détient plus de 48 tonnes d'ivoire, malheureusement, et est autorisé à en vendre quand même 30 tonnes.
30 tonnes, oui. Ce qui signifie quand même que si on est obligé maintenant d'appliquer la contraception pour réduire les populations d'éléphants, on a quand même un véritable problème. Et puis on a vu une autre mesure que l'on a pu voir pour essayer de maintenir une faune importante dans le parc, c'est la construction de mares artificielles.
Et oui. En effet, certains points d'eau sont entretenus et des mares artificielles ont été construites. D'une certaine manière, c'est un maintien finalement artificiel des espèces en construisant ces points d'eau.
Alors c'est sans doute le devenir de la plupart des parcs naturels, hein, de commencer à artificialiser la présence des espèces. On le connaît aussi en France avec le maintien des vautours, le maintien des busards dans les plaines, etc. Où on continue à artificialiser finalement les espèces. Mais évidemment, dans le parc Kruger, ça va même beaucoup plus loin, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le parc est même amené à abattre des animaux de certaines espèces parce que les populations sont en surnombre, augmentent trop, et que cette prolifération a tendance à réduire les possibilités d'accueil.
Enfin, il a été amené à prendre cette mesure pour contenir la dernière sécheresse dans les années 90, qui avait provoqué la mort de la moitié des buffles et des deux tiers des hippopotames. Mais depuis, les buffles comme les hippopotames se sont multipliés, atteignant respectivement 47 000 et 8 000 individus, un record pour le Kruger. La sécheresse actuelle, risquant de se poursuivre selon les météorologues, Sun Parks a donc décidé, il y a 2 ans, d'abattre des animaux. Le mot « prélever » est le mot utilisé, mais ce prélèvement atteindra au maximum 4% de la population de ces deux espèces. Les raisons de cette décision sont multiples. La concentration des hippopotames pollue l'eau, risquant de provoquer des épidémies. La réduction du nombre de buffles permettra d'aider d'autres espèces d'herbivores. Les cadavres des animaux morts de faim risquent de transmettre des maladies, donc... En fait, ces animaux vont mourir dans tous les cas. Autant aider aussi, ce que disait Sun Parks, c'est d'aider les communautés voisines. Et enfin, les touristes ne souhaitent pas voir des animaux squelettiques. Eh bien, cette décision a bien évidemment suscité des réactions.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est donc maintenant dans des espaces dits protégés, qui sont censés conserver la faune, mais que malgré tout, on intervient pour réduire la faune qui est présente, parce que ça se multiplie trop vite, proportionnellement à d'autres endroits où il n'y en a pas du tout, d'ailleurs, de cette faune. On est donc ici dans une contradiction absolue. À quoi peuvent mieux servir des parcs naturels qui sont maintenant obligés de réduire le nombre d'animaux pour qu'ils soient simplement capables d'y survivre. Pour ceux qui sont en faveur de la non-intervention, l'abattage des animaux sauvages n'est donc pas du tout un rôle pour un gestionnaire de parc naturel ou de parc national. Et donc, évidemment, réouvrir l'abattoir de Skukuza en septembre 2016, ça va rappeler des très mauvais souvenirs, puisque c'était un abattoir tristement célèbre, puisque là, on y abattait des éléphants, et ça a été pratiqué jusqu'en 1994, parce qu'on jugeait que leur population était trop nombreuse. La réduction des populations a toujours été importante pour tous les interventionnistes, alors que pour les non-interventionnistes, la sécheresse fait partie du cycle normal de l'écosystème de Kruger, et l'homme ne devrait pas avoir à s'en mêler. En revanche, évidemment, d'un point de vue touristique, c'est pas très très joli. Donc, on a affaire à deux types de positions qui sont parfaitement illustrées par l'avis de l'écologiste, notamment Ian MacDonald, et puis par l'avis de Sun Parks qui le contredit.
où commence et où s'arrête la mission de gestion d'un écosystème aussi grand que le parc national Kruger ? Est-il un espace sauvage, naturel ou artificiel complètement ?
Oui, tout le problème de comprendre si un espace fermé peut servir à la conservation de la faune est ici posé. Espace ou espèce, on est vraiment ici dans notre thème principal. Alors on va voir quels sont les avis opposés hein, de l'écologiste Ian MacDonald ici, et puis les réponses du parc Kruger. Alors ça va montrer bien sûr que la conservation de la faune dans les espaces contrôlés n'est pas une chose simple. Alors est-ce que tu peux nous détailler, Siona, les éléments de cette controverse ?
On va dire que pour MacDonald... L'un des principes de base de la gestion de la faune est que les grandes réserves de gibier nécessitent une gestion moins intensive que les petites. Ce qui s'applique évidemment pour la gestion écologique d'une parc national.
Oui, puisque c'est un des plus grands parcs africains.
Les impacts écologiques des perturbations ont plus d'effet sur les petites réserves que sur les grandes. Par exemple, le feu brûle 5000 hectares d'une réserve animalière de 10 000 hectares, ce qui est un impact majeur qui doit être géré. Cependant, le même incendie de 5000 hectares pour Kruger, 2 millions d'hectares, est négligeable et n'aura pratiquement aucun impact. Ce concept peut être appliqué à toutes les sphères de la gestion écologique, l'impact du surpâturage, les impacts des éléphants, les maladies, la disponibilité de l'eau. En fait, dire que le parc national Kruger est clôturé et par conséquent doit être micro-géré est incorrect. D'autant qu'il fait des liens avec les autres réserves maintenant. Kruger est un système assez grand qui, pour MacDonald, est capable de résister à la majorité des impacts écologiques provenant de ses frontières. Et cela inclut les impacts des éléphants et les effets de la sécheresse.
Alors on voit bien qu'ici, ce qui va compter principalement, c'est la taille en fait du parc qui permet d'établir cette controverse. Car en effet, le problème du parc vient aussi du fait que des animaux migrent et ne restent pas confinés à l'intérieur des réserves. En fait, le problème, en quelque sorte, finit par venir d'ailleurs.
La majorité des espèces de Kruger occupent des domaines vitaux ou des territoires fixes. Et les migrations historiques en dehors de Kruger se limitaient principalement aux gnous et aux zèbres. Les éléphants effectuant des mouvements de longue distance par nature et ce n'est pas une migration. La plupart des zones où les zèbres et les gnous avaient l'habitude d'émigrer au printemps ont maintenant été réintégrés dans le système écologique du Grand Kruger. Par conséquent, dire que leurs routes de migration ont été coupées est faux. Malheureusement, il est peu probable que les migrations dans ces zones se produisent. Principalement à cause de changements de végétation pendant la période où ils ont été isolés de Kruger. Avec la sécheresse actuelle, on ne trouve pas de troupeaux d'animaux massés le long des frontières de Kruger pour s'échapper.
Oui, en même temps, on peut se dire que la protection du parc que le parc leur offre maintient malgré tout les populations en dépit des problèmes d'érosion des milieux. Enfin... En même temps, MacDonald va souligner que le problème de la conservation des habitats est aussi quelque chose qui évolue.
Oui, c'est un autre point important. Comment les savanes sont maintenues dans la nature ? Une savane est un biome unique où il y a une coexistence difficile entre les plantes ligneuses et l'herbe. Ce système se développe continuellement. Et dans Kruger, si l'occasion se présentait, le système progresserait dans un fourré forestier.
Alors ça, c'est l'hypothèse habituelle, hein, que les savanes, les prairies sont petit à petit colonisées par les espèces ligneuses et que les herbacées ne maintiennent pas ces espèces ligneuses. Donc, en règle générale, on considère que c'est principalement les ongulés qui vont empêcher ça. Et évidemment, la question est de savoir si l'évolution vers ce fourré forestier est quelque chose de vraiment obligatoire hein, dans la succession végétale.
Les perturbations écologiques sont essentielles pour inverser cette progression naturelle des forêts mixtes vers les forêts de bois, donc. Et en d'autres termes, les savanes se nourrissent de perturbations, finalement. Elles maintiennent non seulement la diversité des espèces, mais aussi la productivité. Des perturbations telles que le feu, la sécheresse, les éléphants, les buffles, les hippopotames, entre autres, sont finalement essentielles pour inverser la progression lente et régulière vers un fourré forestier qui offrirait beaucoup moins d'habitat pour les animaux et une biodiversité bien inférieure. Enfin, ça, c'est la position donc de MacDonald.
Oui, mais en même temps, c'est bien la vision habituelle des processus évolutifs des écosystèmes qui, effectivement, se colonisent les uns les autres. Et les interactions avec la faune, en règle générale, font que l'habitat semble se maintenir, mais qu'il évolue d'une manière un petit peu différente.
Donc, en fait, laisser aller au naturel et laisser l'écosystème faire son travail, c'est un peu la position de MacDonald. Les savanes ont besoin de perturbations constantes pour créer des niches pour les espèces qui ne seraient pas là si les effets de ces perturbations étaient limités.
Alors en effet, les éléphants, par exemple, sont une espèce ingénieure qui vont favoriser la présence des herbacées en cassant les forêts. Et inversement, on va avoir des espèces qui vont favoriser les forêts en apportant des graines de ligneux qui vont pousser en savane. Alors après, la sécheresse est quand même un des éléments clés de la compréhension du parc Kruger. Et donc face à ce discours qui est protectionniste et non interventionniste, on trouve les tenants d'une limitation des populations animales.
Oui, en effet, par rapport à tous ceux qui soutiennent l'abattage des animaux dans Kruger, en fait, il s'agit de reconsidérer un point de vue. Ce n'est pas un spectacle agréable de voir mourir pendant une sécheresse, mais c'est un gaspillage de ne pas utiliser ces carcasses pour nourrir les gens. En fait, les prélèvements sont axés sur la réduction de la pression sur les zones sensibles du parc, et retirer l'hippopotame des petites mares naturelles où ils sont concentrés, dans des densités anormalement élevées. Puis en plus, ils défèquent dans l'eau, ce qui rend inutilisable pour les autres animaux. Ces hippopotames, ils provenaient de barrages artificiels qui se sont asséchés et peuplent maintenant de petites piscines naturelles en grand nombre.
Oui, parce qu'en fait, leur population a bien évolué en cours de route, mais elle n'empêche que la question de l'abattage des animaux, de la réduction des populations, comme on dit de manière, ou le prélèvement, comme on dit d'une manière plus écologique, pose quand même un véritable problème, puisque c'est quand même terriblement lié au fait qu'il faille contrôler les populations.
Bonango mate la china, la pe kona, la pe feli kona.
Hasi
bonango mate la china, la pe kona, la pe feli kona.
C'était Asi Bonanga, c'est-à-dire une chanson sur Mandela, par Johnny Clegg et Savinka.
Donc nous revoilà toujours pour parler de ce problème majeur que sont la protection des espaces ou la protection des espèces, où on vient de voir qu'en dépit de cette grande stratégie particulière de conservation de la nature qu'est le parc Kruger, lui-même, qui est un des plus grands parcs du monde, connaît donc des problèmes de taille, puisque la taille de l'espace protégé ne permet pas nécessairement le maintien des espèces, ou en tout cas des espèces avec des densités relativement faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilité d'une espèce, et donc le rétrécissement de sa niche, ou la détérioration de sa stratégie démographique, ça constitue une alerte sur la santé de l'ensemble de l'écosystème. C'est dire l'importance des concepts de biodiversité ou d'espèces en danger pour bien concevoir ce qu'est l'écologie évolutive.
Oui, parce que les dangers qui pèsent sur les espèces font à leur tour peser des menaces graves sur le fonctionnement des systèmes écologiques.
Ce qui nous ramène toujours à ce même dilemme, à cette dialectique particulièrement satanique. Est-ce qu'il faut protéger les espèces ou est-ce qu'il faut protéger les milieux? Et comment est-ce qu'on peut définir ces deux concepts de protection et de conservation?
Donc en fait, il faudrait protéger les espèces et leurs milieux à la fois, non?
En effet, c'est le problème majeur. Alors, on a imaginé des solutions alternatives. Par exemple, on a imaginé l'idée de l'effet parasol, umbrella species. L'idée, c'est que dans cet effet parasol, on va protéger, par exemple, un grand carnivore ou une grande espèce. Et qu'en protégeant cette espèce, ça va avoir des effets protecteurs sur toutes les espèces les plus petites qui sont situées à un niveau plus bas des réseaux trophiques. Une espèce parapluie ou espèce paravent, hein, c'est en écologie une espèce dont la taille du territoire ou l'étendue du domaine vital ou de sa niche écologique va permettre la protection d'un grand nombre d'autres petites espèces. La protection d'un grand espèce, l'ours par exemple, pourrait jouer un rôle de parasol pour les espèces plus petites, les bouquetins, les tétras, ou même pourquoi pas sur les renards.
Ainsi, en donnant un statut de protection à l'espèce parasol, c'est tout l'écosystème qui serait protégé. Mais comment cela peut-il se faire ?
Alors, en théorie, évidemment, ça fonctionne sur le papier, hein. C'est des modélisations relativement simples. L'espèce parasol n'a pas à avoir de relation avec les autres espèces pour que ça marche. Il suffit que l'espèce soit un marqueur de milieu, par exemple la zone montagnarde ou encore la savane boisée, et son domaine vital est alors suffisamment vaste pour qu'il constitue une sorte de réserve naturelle en même lui. Donc, si on le protège lui, ça va protéger les autres espèces. En assurant la protection de cette espèce, les autres espèces vont bénéficier de manière quasi automatique de l'effet cette conservation qui porterait sur l'espèce parasol.
Alors en protégeant le rhinocéros, les antilopes seraient protégées de facto.
Voilà, en théorie en tout cas, car l'espèce parasol va couvrir un domaine vital assez important pour favoriser le maintien des autres espèces, n'importe lesquelles, même si ces espèces ne sont pas en lien direct dans l'écosystème. En effet, cet effet parasol d'une espèce protégée serait très 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 pratique. Sauf que malheureusement, si ça fonctionne bien sur les modélisations écologiques, ça s'est avéré très 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 peu efficace dans les faits. De nombreuses études ont mis en doute la théorie de la conservation d'un grand territoire pour une grande espèce, qu'elle aurait des effets pour la protection des autres.
Toi-même, tu as analysé cet effet umbrella species ici en France, dans une étude publiée dans Biological Conservation.
Oui, c'est une étude qui a porté sur la loutre comme espèce parasol. La loutre, c'est quand même un grand prédateur aquatique. Elle dispose d'un long territoire de plusieurs kilomètres. Et nous voulions savoir si sa protection avait entraîné le maintien de la biodiversité sur ces kilomètres de domaine vital. Alors la réponse est non. La protection de la loutre n'a eu aucun effet sur les populations d'oiseaux ou sur les populations de mollusques, par exemple. L'efficacité de la conservation en termes d'espèces parapluies peut donc être mise en doute. En fait, la plupart de ces espèces parapluies étudiées étaient plutôt fonctionnellement des espèces clés de voûte, c'est-à-dire des espèces dont l'écologie est liée aux mêmes aux espèces de l'écosystème. L'espèce clé de voûte est un grand prédateur, par exemple, dont l'écologie va jouer sur les autres espèces. Il agit comme, en quelque sorte, la clé de voûte d'un ensemble systémique, d'un écosystème. Alors que l'espèce parapluie, elle semblerait, devrait jouer un rôle sans avoir de lien avec les autres espèces. On s'aperçoit que quand on compare ces deux effets, seul l'effet clé de voûte fonctionne et donc il a évidemment un effet beaucoup plus limité sur l'ensemble des espèces qu'il faut forcément lier à l'écologie de l'espèce particulière. Mais une espèce ne semble pas pouvoir conserver toute une faune simplement parce qu'elle disposerait d'un grand territoire, d'un grand domaine vital, et évidemment ça réduit tout l'intérêt d'un effet d'appel comme par exemple l'effet parasol ou encore l'effet célèbre d'une faune particulière.
Mais en classant une espèce prioritaire, peut-on ainsi agir indirectement sur la protection de la faune ?
Alors c'est ce qu'on essaye de faire dans les parcs naturels, dans les parcs nationaux et évidemment aussi dans d'autres endroits. On essaye d'utiliser des espèces charismatiques, on appelle ça des porte-étendards en quelque sorte de la conservation. Et on pense que si on arrive à faire porter la conservation sur l'ours des Pyrénées, sur la loutre en Europe, par exemple, ou bien sur la faune africaine.
Les Big Five.
Voilà, sera des vertus sur l'opinion publique, et ça pourra contrebalancer la surestimation du rôle écologique de ces espèces. Bon, par exemple, les Big Five, hein, le rhinocéros, l'éléphant, le buffle, le lion et le léopard, sont devenus les porte-étendards de la faune africaine. Et donc, évidemment, en protégeant ces cinq espèces, on pourrait penser que ça va bénéficier à l'ensemble de la faune, et notamment à des espèces beaucoup moins connues.
Le parc Kruger est un bon exemple. En mettant en évidence les Big Five, le parc ne se contente pas d'assurer du tourisme, mais a établi des frontières protégeant la faune africaine et met en place des plans de conservation pour des espèces moins charismatiques, depuis le licaon jusqu'au mangouste.
Voilà, grâce à ça, les parcs peuvent réussir à conserver la nature en confisquant de l'espace, en protégeant une zone plus ou moins complètement. Alors la probabilité de survie des espèces va maintenant dépendre de la qualité des milieux. Et comme on le voit, la qualité des milieux peut se dégrader à cause de la densité des espèces elles-mêmes. En outre, les activités humaines restent une pression, et donc le parc, petit à petit, va avoir du mal à assurer sa mission. Le problème, c'est que ça fabrique une sorte d'effet source et d'effet puits. C'est-à-dire que dans le parc naturel, les espèces vont bien se reproduire, vont bien se développer, et du coup, ça va assurer une densité telle que les espèces ne pourront plus s'y maintenir. Et donc, il faudra évidemment que toutes les espèces animales puissent être en liaison les unes avec les autres, avec les différents espaces. Or, le parc Kruger, même s'il est très grand, eh bien, il est magnifiquement petit quand on le compare évidemment aux zones dont les éléphants ont besoin, dont les buffles ont besoin. Et même des grands parcs naturels de ce genre, on le voit, sont limités par leurs propres frontières. Au parc Kruger, on le sait également, le braconnage reste une menace importante. Car comme les densités des espèces sont importantes, évidemment, les braconniers vont essayer d'aller prélever la faune là où il y en a, puisqu'ailleurs, il n'y en a plus. En Europe, on a également un droit de chasse qui est délivré, y compris dans des zones protégées. Et c'est toujours un problème que des gens puissent se promener avec un fusil pour réguler des populations de bouquetins ou de chamois. D'autant qu'en général, ces mêmes personnes ne tolèrent pas que le loup puisse exercer la régulation naturelle de ces populations de bouquetins ou de chamois.
Tout à fait. Donc on ne peut éviter d'établir des critères de protection des espèces en danger, en fait.
Voilà. On peut dire que la conservation des espaces, c'est quelque chose de nécessaire, mais qu'il faut aussi considérer des critères objectifs de conservation pour chaque espèce. Alors, je rappelle que la liste rouge, la Red List de l'UICN, est un système de classement des espèces selon le risque d'extinction. Alors, il existe 8 catégories. Éteinte, hein, c'est étendu quand une observation n'a pas été faite depuis les 50 ans. Éteinte à l'état sauvage, en danger critique. Donc là, c'est quand une espèce est si vulnérable qu'elle est en danger immédiate. En danger lorsque les populations sont très menacées. Vulnérable lorsque l'espèce ne cesse de se réduire. Rare, ça, c'est des espèces qui peuvent être localisées et petites, mais pas nécessairement en danger. Et puis après, on a des préoccupations mineures, mais surtout, on a aussi la problématique des données insuffisantes, non évaluées. Le classement est basé sur différents facteurs biologiques associés au risque d'extinction. Pour l'instant, on ne dispose quasiment que de cette liste rouge, hein, pour comprendre comment les populations vont changer, évoluer. Donc, c'est basé sur la taille de la population, le taux de déclin, l'aire de répartition géographique, le degré de peuplement, de fragmentation de la population. On additionne ces ensembles de critères pour donner à l'espèce un statut qui va être plus ou moins prioritaire. Alors, tout problème reste que cette conservation de la biodiversité va reposer sur le concept d'espèce.
L'espèce reste la base de la biologie naturaliste, mais en effet, devant l'importance des hybrides et des croisements, on peut s'interroger sur ce qu'est une espèce et comment la protéger.
Voilà, car classer la diversité biologique des êtres vivants, ça paraît une activité anodine. On croit volontiers qu'il est naturel de distinguer une girafe ou un grillon. Mais la notion d'espèce est au contraire très très problématique. Au cours des temps, il y a eu des préjugés religieux ou idéologiques qui en ont altéré la classification. On a découvert, par exemple, une nouvelle espèce d'éléphant, tout simplement parce que les éléphants de l'Est de l'Afrique ne se reproduisent pas avec les éléphants de l'Afrique centrale. Voilà donc bien deux espèces qui sont séparées. Buffon, dès 1749, proposait de fonder biologiquement la définition de l'espèce sur la reproduction. Alors, il disait, on doit regarder comme la même espèce celle qui, au moyen de la copulation, se perpétue et conserve leur similitude, et comme espèce différente, celle qui, par les mêmes moyens, ne peuvent rien produire ensemble. C'est le cas de nos éléphants africains, hein. Donc on a probablement au moins deux espèces. Et si on réactualise la définition de Buffon, c'est comme Ernst Mayr, par exemple, un des fondateurs de la nouvelle biologie, eh bien il va dire une espèce, c'est un ensemble de populations interfécondes et qui sont reproductivement isolées de tout autre ensemble de populations.
L'espèce est donc définie par l'isolement reproducteur, mais c'est insuffisant ?
Oui, ça reste très insuffisant. En fait, ce n'est pas le systématicien généralement qui identifie l'espèce dans le secret de son laboratoire de génétique. Les animaux sont vivants. Ce sont donc des individus qui vont se reconnaître, et se reconnaissant, ils peuvent se reproduire entre eux. Et c'est un véritable problème, parce qu'évidemment, la question des hybrides se pose. Est-ce qu'un hybride, c'est une espèce ? Est-ce que ce n'est plus la même espèce ? Comment les espèces vont changer leurs gènes ? Et comment tout ça se perpétue dans la nature ? C'est beaucoup plus compliqué. L'être humain, par exemple, est lui-même fondé de tout un ensemble de d'hybridation avec Néandertal, avec Denisova. Et toutes les espèces se sont formées comme ça, de groupes pluriels. C'est pourquoi Patterson, en 1983, avait proposé d'élargir la conception d'espèce à tous les individus qui étaient aptes à se reconnaître d'un point de vue comportemental. Il appelait ça le Specific Recognition Made System, car les organismes ne se connaissent pas, ils se reconnaissent.
Mais Thierry, il existe cependant une biogéographie de l'espèce. Les lions, par exemple, ne vivent pas comme les jaguars, et mes éléphants d'Asie diffèrent des éléphants de savane africaine.
Oui, si la proximité comportementale et la reconnaissance amoureuse fait qu'un vison reconnaît un autre vison, il peut aussi s'intéresser à un putois, parce que la question, évidemment, de la densité des individus va être cruciale. Une femelle de vison va copuler avec des putois. Protéger le vison reste donc compliqué, car la distribution des espèces n'est pas la même dans l'espace. Le vison préfère les milieux boisés, le putois réside davantage dans les marais et dans les bocages. Alors, on voit que la biogéographie a influencé la répartition des espèces, mais c'est une sorte de gradient, et la biologie est très changeante. L'évolution biologique parcourt la biologie, et les espèces ne se fixent pas d'une manière définitive. Chacune des espèces est une sorte de flux de gènes qui n'arrête pas de varier, de changer en cours de route. Par exemple, l'espèce humaine n'est plus tout à fait la même que celle qu'elle était à l'époque où on a commencé à rencontrer Néandertal. L'espèce reste aussi un concept spatial, et la distribution géographique qui permet d'associer un espace à une espèce devrait permettre de protéger les deux à la fois. Mais en même temps, la plupart de ces lieux sont clos, sont petits, sont étroits. C'est pourquoi il faudrait multiplier les zones protégées et les parcs naturels.
En considérant que la diminution des espèces constitue un signal d'alarme sur la santé de la planète, on doit aussi se fonder sur la protection des espèces et de leur milieu.
Tout à fait, Siona. La perte d'une espèce constitue un signal d'alarme sur le dysfonctionnement d'un système. Et c'est la fin, en général, des processus sans boucle de régulation. C'est pourquoi cela nécessite l'introduction d'une régulation nouvelle. Régulation nouvelle, c'est l'apport d'un travail de restauration. On va renettoyer une mare, retravailler sur, replanter des arbres, ou encore on va être obligé de réduire la densité de la faune. La conservation, à travers l'instauration d'un parc naturel, devient nécessaire. Mais ça n'a pas de sens si l'espace protégé n'est pas suffisamment important pour que l'ensemble du système fonctionne correctement. Ou alors il va falloir multiplier les interventions et évidemment artificialiser dans le but d'équilibrer l'ensemble.
Les parcs naturels sont donc comme la langue d'Ésope. La meilleure des choses pour la nature et le moins bon à la fois.
Et oui, s'il y en a comme la langue d'Ésope, les parcs naturels sont la meilleure et la moins bonne des choses. Car la gestion des espaces pose deux problèmes majeurs. D'une part, la définition des objectifs à atteindre de conservation. Et d'autre part, le problème du morcellement de l'espace. En fait, les parcs naturels ne sont qu'une solution provisoire et largement insuffisante.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful world, par Louis Armstrong.
Le parc Kruger en Afrique australe est devenu progressivement la zone d'accueil d'un tourisme avide d'espaces sauvages. Ici se croisent d'innombrables voiturettes entre éléphants et lions au sommeil lourd. Une carte postale qui se marchande entre touristes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le parc Kruger habite réellement des animaux sauvages, de vrais éléphants naturels, de vrais lions majestueux. Pour une fois, l'espace est partagé entre les humains et la faune. Pour le moment, cet équilibre précaire favorise encore la conservation d'un espace sauvage, rare et limité. Mais il est aussi le symbole d'une situation à venir de l'artificialisation de la planète, où la faune ne pourrait survivre qu'à la condition d'être protégée dans le cadre de situations artificielles. En France déjà, on est obligé de déplacer les nids de busards cendrés pour qu'ils réussissent à se reproduire. Si le terme biodiversité reste encore un concept trop large, on sait aujourd'hui que toutes les espèces n'ont pas la même valeur fonctionnelle. Toutes les espèces n'ont pas le même intérêt dans le fonctionnement des systèmes, et la singularité des milieux dépend des échelles et des structures. En effet, certains prédateurs, par exemple, exercent un rôle essentiel et disproportionné tant dans la régulation du système que dans le maintien de sa diversité. La perte de ces espèces entraîne un déséquilibre considérable en chaîne. Mais ce sont précisément ces espèces, ces grands carnivores qui sont les plus menacés sur notre petite planète. Alors faut-il applaudir au parc Kruger? Faut-il participer à son écotourisme? Mais comment pourrait-on voir et se sensibiliser autrement? La conservation d'espaces et d'espèces sauvages nous rappelle combien les êtres vivants ont fait cette planète et combien notre monde réel est différent de ce monde marchand.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les deuxièmes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animé par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi, et nous allons conclure sur Sona Jobarte Ambia, Gambia.